quelque temps de ça, j'avais apporté comportement dans l'épreuve et Jean Bernard m'avait interpellé en me disant, mais pourquoi Dieu permet l'épreuve? Et gentiment, je lui dis, mais c'était pas le sujet. Et il fait, j'aimerais bien que tu réfléchisses là-dessus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est un sujet intéressant. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? Et je dis bien permet l'épreuve, hein, parce que je pense qu'il ne permet pas. Il n'accepte pas qu'on touche à ses enfants comme ça, il n'accepte pas qu'on touche à ses disciples comme ça. S'il permet, c'est qu'il y a forcément une raison, ou une raison, je dirais, qui va aller à notre bénéfice, bien sûr, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Avant de continuer, j'ai pas envie d'être comme les amis de Job qui pensaient bien faire en voulant convaincre Job de son péché ou d'un quelconque péché ou d'une quelconque erreur, d'une mauvaise vue de la part du Seigneur. J'ai voulu prendre trois versets qui n'ont forcément rien à voir avec le message, mais ces trois versets qui sont tirés de la Bible, je les ai moi-même tirés d'un petit fascicule, les 866 promesses de Dieu. Hein, qui sont tirés d'un petit fascicule, d'un petit livre de David Wilkerson qui m'aide souvent quand j'ai envie de me rebooster. Ces trois versets sont simples, hein, vous les connaissez certainement. C'est dans Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ensuite, c'est le psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Enfin, dans 1 Timothée 1, verset 15, cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Ces trois versets, je voudrais qu'il vous encourage, je voudrais qu'il vous rappelle le cœur de Dieu, je voudrais qu'il vous rappelle les motivations de Dieu, hein. Et même dans l'épreuve, sa motivation, hein, c'est que nous puissions en sortir plus grands que plus petits. Dans la Bible, la personne où on voit, je dirais, où on en parle le plus, où on voit vraiment que c'est que Dieu permet l'épreuve, c'est Job. Hein, suffit de lire les premiers chapitres. Et Dieu rend témoignage de Job que c'est un homme intègre. C'est un homme, je dirais pour l'époque, un homme juste. Dieu rend un bon témoignage de Job. Quand il en parle, je me dis, j'aimerais bien qu'il parle de moi comme ça. Hein, mais je risquerais d'attraper la grosse tête. Le gros problème, c'est que malgré tout cela, Dieu va permettre à Job, va permettre du moins, à ce que Job ait une épreuve, et pas des moindres. Vous la connaissez tous, vous connaissez tous l'histoire de Job. Hein. Dieu va permettre à Satan de le mettre à l'épreuve. Je dirais même d'une mise à l'épreuve, car dans l'épreuve, il y a aussi des mises à l'épreuve. Et c'est ça que, par moment, peut-être ce regard, nous ne comprenons pas toujours pourquoi l'épreuve, mais Dieu peut permettre cela pour une mise à l'épreuve de notre foi. Hein? Comme je disais, aussi pour voir notre comportement. Donc, il permet à Job, et il touche Job aussi bien dans sa famille, parmi ses enfants, dans, je dirais, ses biens, ses richesses, comme dans sa santé. La seule chose qui ne permet pas à Satan, et c'est là que je voudrais attirer le regard aussi, c'est qu'il ne permet pas qu'on touche à sa vie. Il met une limite. Dieu met une limite à l'épreuve. Il ne permet pas à l'épreuve, et j'ai employé le mot épreuve, qui peut dire beaucoup de choses dans le sens, ça peut être Satan, ça peut être une épreuve qui vient comme ça, c'est pas forcément Satan, c'est une épreuve, car Nous pouvons vivre des épreuves qui ne viennent pas forcément de l'adversaire. Mais il met une limite. Il ne permet pas que ça aille au-delà de nos forces. Ça confirme bien sa parole qui ne va pas au-delà de nos forces. Qui ne va pas au-delà de nos capacités. Et l'épreuve est toujours, elle n'est pas, je dirais, spirituelle. Elle est dans un cadre que nous connaissons tous, que nous pouvons tous connaître. Que ce soit parmi nos biens, que ce soit dans la maladie, que ce soit, je dirais, dans les diverses choses que nous pouvons vivre chaque jour. C'est une épreuve que nous connaissons. Si nous ne la connaissons pas personnellement, nous pouvons la connaître vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, vis-à-vis de la société. Mais il met une limite. Il ne permet pas que ça aille au-delà. Il fait un stop. Pourtant, l'épreuve de Dieu a un but. Et ce but, nous ne l'apercevons pas au début de l'épreuve. Nous ne la voyons pas au début de l'épreuve. Et nous ne la comprenons pas. Job ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Pour lui, dans son cœur, il était sincère avec Dieu. Quand il faisait des sacrifices, c'était sincère avec Dieu. C'était vraiment des sacrifices, soit de repentance, soit d'action de grâce. Mais il suivait. Même Dieu rend témoignage que c'était un homme intègre. Donc, il ne comprenait pas pourquoi cette épreuve arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela d'un seul coup, en un instant, dans sa vie, bouleversait son quotidien, je dirais. Mais Dieu avait, à travers cela, à travers ce que l'ennemi allait faire, à travers ce que l'épreuve allait faire, avait un but. Et ce but, c'était, je dirais, pour Job, un plus. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions quand nous traversons les épreuves. C'est ce plus qu'il va avoir à la fin. Aujourd'hui, je pense que c'est un échec pour moi, personnellement, si je ne sors pas dans l'épreuve, je ne sors pas avec un plus. Je ne sors pas avec un regard nouveau. Je ne sors pas avec des pensées nouvelles. Je ne sors pas en étant renouvelé quelque part dans mon être intérieur en Christ. Je dis, j'ai loupé quelque chose. Mais comme Dieu fixe une limite et qu'il ne veut pas que nous tombions, il veut que nous restions debout. Et si nous tombions, il veut qu'on se relève. Il attendra un autre moment peut-être pour nous donner à comprendre encore ce qu'il désire nous donner. Car il veut nous donner. Il veut nous donner ce plus. Et pour Job, ce plus, c'était de le connaître. Job respectait des règles. Il respectait je dirais, des lois qui en soi étaient bonnes. Nous respectons. Dans notre vie de chaque jour, des règles, des lois, des choses qui font que Paul dit on n'est pas sans loi, donc nous les respectons du mieux qu'on peut, on essaie de les respecter, soit pour nous-mêmes, soit pour faire plaisir à Dieu, mais quelque part, on n'est pas sans loi et on les respecte, on essaie du moins. On essaie d'être agréable à Dieu dans notre comportement, c'est pas toujours le cas, mais on essaie tous les jours, hein. Mais on risque d'une chose, c'est de passer à côté. En voulant absolument respecter ces règles, il y a un moment où ça devient, je dirais, du religieux. En soi, elles sont bonnes. C'est le moment, ces lois sont bonnes, sont même spirituelles. Mais ça risque de devenir du religieux parce qu'on risque de passer à côté de connaître Dieu. Et pour Job, Dieu avait prévu, vraiment, c'était qu'il le voie. Hein? Dans Job 42, verset 3, Job 42, verset 3, je retrouve plus mon texte. Ouais. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ah, c'est moi qui avais commis une erreur, excusez-moi. Hein. C'est verset 5, pardon. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et à la fin de l'épreuve de Job, au moment où Dieu se révèle à Job, au moment où Dieu parle à Job, où je dirais, je peux employer ce mot, qu'il recadre Job, Job admet, j'avais entendu parler de toi. Par les règles, par les doctrines, j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de ce que tu désirais, de ce que tu voulais, mais je ne te connaissais pas personnellement. Maintenant, je te vois. Je te vois. Non plus comme je te voyais avant, un Dieu mystère, un Dieu loin, hein, je dirais, allez, je vais oser le terme, pour l'époque, vous savez qu'il y avait beaucoup de divinités. Un dieu parmi les divinités, celui que j'adore parmi les autres. Non. Non, pas non, je te vois, parce que je te vois comme le créateur. Je te vois comme celui qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toutes les dominations. Je te vois comme celui qui, non seulement le créateur, mais qui a créé et qui m'a créé. Comme celui qui connaît mes pensées, qui connaît mon cœur. Quand je regarde ta création, je te vois. Moi, je m'émerveille toujours quand je regarde la création. Je m'émerveille toujours quand je vois des documentaires à la télévision, des belles montagnes, des fleuves merveilleux, des choses qui, pour moi, j'aime la nature, donc quelque part, je me dis, mais ça, c'est la création du Seigneur, et c'est beau. Thierry nous disait la dernière fois d'être émerveillé. Mais soyons aussi émerveillés par la création qu'il nous a donnée. Je ne vois pas Dieu, mais je peux le voir à travers sa création. Je peux le voir à travers sa créature. Je peux le voir à travers toi, ma sœur, à travers toi, mon frère. Je peux le voir. Et ça, est-ce que nous en prenons conscience? Et Job a pris cette conscience. Il voyait plus Dieu dans des doctrines, dans des règles, qui en soi, je dis encore, sont bonnes. Il voyait Dieu encore plus loin. Et il pouvait dire à la fin, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je te vois. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le voyons chaque jour dans notre vie? Hein? Ma femme me dit souvent, elle me disait souvent, mais on prie pour des grandes choses, mais Seigneur, pour ce qu'on ne voit pas, pour des moments, ce qu'on ne flashe pas, on te rend grâce pour ce que tu agisses. Je te rends grâce, Seigneur, pour les choses que tu ne permets pas dans ma vie et qui pourraient nous arriver. En ce moment, je ne vous cache pas, il y a deux collègues de travail qui ont hélas attrapé, du moins, il y en a un certain, l'autre, c'est en cours, mais ils ont attrapé cette maladie et je l'ai côtoyé et pour l'instant, nous n'avons rien. Et je rends grâce. Merci, Seigneur. C'est comprendre cela, c'est voir Dieu en action. Dans le quotidien de nos vies, dans les petites choses. On aimerait le voir dans les grandes choses, mais le voir aussi dans les petites, dans les choses qui nous paraissent anodines. Une fois, j'ai failli, je ne faisais pas attention et mon épouse m'a repris, m'a dit, fais attention, arrive une voiture. Je n'avais pas vu la voiture. Normal. Je ne pouvais pas la voir, moi je regardais la route et la voiture débouchait, je veux dire, du trottoir, ce serait trop long à expliquer. J'aurais accéléré, je pense que. Et je rends grâce au Seigneur. Je le remercie. Merci Seigneur, ça m'a évité beaucoup de déboires, de paperasse. Hein? Des petites choses. Je te vois, Seigneur, merci. Merci de me préserver de tout mal. C'est bien dans le Notre Père qui dit merci. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Merci. Merci de ne pas permettre à l'ennemi de toucher à ma vie comme il le veut. Merci. Je te rends grâce et je te loue pour cela. Job avait vu Dieu, donc il a appris à connaître Dieu. Il apprend à connaître. Toujours, chaque jour, nous apprenons à connaître Dieu. Du moins, c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à le connaître. Dans Jean 17, verset 3, Or la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Nous avons des années de vie chrétienne. Nous ne pouvons pas dire, et nous serons menteurs si nous disons que nous ne connaissons pas Dieu, comme nous serons menteurs aussi si nous disons que nous le connaissons pleinement. Mais dans tous les cas, logiquement, nous devrions le connaître et continuer à le connaître. Il se révèle pas à nous pleinement d'un seul coup, mais petit à petit, chaque jour de notre vie chrétienne. Dans Jean 8, il dit aussi, témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. L'importance de connaître Dieu, l'importance de connaître Jésus. Si je connais Jésus, je connais le cœur du Père. Je connais les motivations du Père. Je sais ce qu'il désire pour moi. Quand on connaît une personne, hein, nous savons que quand nous connaissons une personne, si nous allons pouvoir lui faire confiance ou si nous n'allons pas lui faire confiance. Et dans l'épreuve, quelque part, c'est un peu ce que Dieu dit. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est dur, hein? Moi, je ne dis pas que c'est facile, hein? Mais l'épreuve peut servir à ça. C'est approcher de Dieu. Il peut permettre, je dis bien toujours, permettre l'épreuve pour qu'on apprenne à sortir d'une forme de religiosité et apprendre à le connaître vraiment de cœur à cœur et à lui faire confiance. Amen. Ça, c'est une première facette de l'épreuve. Du moins, c'est une des premières facettes de l'épreuve. L'épreuve peut aussi servir, peut aussi servir à, je dirais, à savoir où on en est avec Dieu. Vous n'êtes jamais posé la question où j'en suis avec le Seigneur, moi aussi. Si, si, je me suis déjà posé la question, ben, où j'en suis avec toi, Seigneur. Parce que bon, je ne vois pas forcément ma foi grandir. Les épreuves, je ne cours pas après. Hein, et déjà, quand c'est moi qui les crée, les épreuves, c'est difficile. Mais même quand c'est nous qu'on les crée, les épreuves, Dieu peut l'utiliser quand même. Donc, j'en reviens peut-être à la mise à l'épreuve aussi. Ce moment où, je dirais, qu'il veut nous offrir un regard, il veut aussi nous mettre à l'épreuve, et l'épreuve va permettre ça. Pourquoi ? Il y a un passage dans les Écritures. Exemple, dans Matthieu, je vais prendre les deux principales, je ne vais pas prendre tout le passage, parce que vous le connaissez, ce passage. Celui qui a reçu la semence, c'est dans Matthieu 13, verset 20 à 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que cela, les tribulations, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Où j'en suis avec ce Seigneur? Aujourd'hui, comme vous savez, la religiosité, entre guillemets, est visée. Elle est visée sur plusieurs angles. Il y a des, hélas, des personnes religieuses, pas forcément de notre dénomination, mais qui font des actes atroces. Et vous allez voir, tout au tard, ils vont viser tout le monde. Ils feront plus la différence entre un musulman et un chrétien. Déjà, le fait qu'une fois à Mulhouse, il y a eu des problèmes. Comme vous savez qu'elle a été accusée d'être la souche qui a amené le virus à un moment, alors que c'est faux. Nous savons que nous sommes toujours visés, visés par l'ennemi, mais aussi visés par tous ceux qui refusent notre foi, quelle qu'elle soit. Et comment nous allons nous comporter dans ces moments-là? Samuel Petermius disait comme ça que le chrétien, il faut qu'il se prépare à la persécution. Je pense que oui. Pas seulement vis-à-vis d'autres religions, vis-à-vis d'autres personnes qui ont une autre foi, mais aussi vis-à-vis de la société. Et c'est là, à ce moment-là, c'est une épreuve où nous allons devoir dire bah, où j'en suis avec le Seigneur. Ma foi, elle se contente où? Quand tout va bien? Quand je n'ai pas de problème? Quand je suis béni, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un travail, j'ai de l'argent qui rentre, mes enfants se portent bien, mon épouse se porte bien, enfin quoi? Je dirais un long fleuve tranquille. Bah, la vie chrétienne, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et diverses épreuves que nous pouvons avoir peuvent nous apprendre à justement, encore une fois, à savoir où on en est avec le Seigneur. Je vois autour de moi des gens qui sont dans l'épreuve, mais qui ne croient pas en Dieu. Et dans leur cœur, je vois que c'est très difficile. C'est difficile aussi pour nous. Mais je dirais qu'on a ce plus, du moins, j'espère pour vous, qu'on a ce plus en Jésus-Christ, qu'on a un regard totalement différent. Oui, je traverse une épreuve, oui, j'ai ces soucis, oui, j'ai ces problèmes, mais j'ai ce plus. Et dans les moments de persécution aussi, Jésus nous a avertis, les apôtres nous ont avertis. Pour vous dire que ce n'est pas un fleuve tranquille, 1 Pierre 4, verset 12, mais bien-aimés, ne trouvez point étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Faut pas qu'on s'étonne. Faut pas qu'on s'étonne dans la fin des temps, qu'on va nous montrer du doigt, qu'on va nous regarder comme des parias, comme des gens qui. Des illuminés quelque part. Oui, ben on a été illuminés. Faut pas que ce soit par des personnes religieuses qui ne partagent pas notre foi, comme ce soit des gens de la société. Où j'en suis avec le Seigneur? Où j'ai mis ma foi? En qui j'ai cru? Jacques va plus loin. Il dit de le regarder comme un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Waouh! Il faudrait se souvenir du message de Thierry dans la joie, les messages précédents. C'est pas évident d'être dans la joie dans l'épreuve. Et pourtant, ce petit témoignage, il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, au début de ma vie chrétienne, où ben, je partageais ma foi timidement, mais je partageais. Et on a commencé à se moquer de moi. À me montrer du doigt avec plein de. J'étais pas persécuté en me tapant dessus, on me persécutait plus dans la moquerie. Ça faisait pas du bien, je partais au boulot, je disais, on va encore se moquer de moi à cause de ma foi. Mais c'était pas, je dirais, par rapport à certains frères et sœurs de l'église, des églises du monde, je pense à Mohamed, entre autres, on voulait pas me tuer, hein, on voulait pas non plus me taper dessus, hein, mais on se moquait. Et c'est difficile, hein, on voit aujourd'hui que la moquerie est une arme redoutable. Et à l'époque, j'étais là, j'ai Seigneur, j'ai se moquer. C'est dur, tu sais. J'aurais su, je me serais tué. Jusqu'au jour où j'ai ouvert, dans mon intimité avec Dieu, j'ai ouvert la parole et j'ai lu un passage qui m'a fait du bien. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés à cause de mon nom parce que l'Esprit Saint repose sur vous. À moi, ça m'a libéré. Aujourd'hui, quand on se moque de moi à cause de ma foi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je dis merci Seigneur, ton Esprit repose sur moi. Désolé, je le prends au mot. Eh oui, je prends l'Évangile par moment au mot. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a aidé à tenir. Pourquoi? Parce que j'apprenais à connaître Dieu. Et parce que les expériences des frères et sœurs d'il y a 2000 ans, ce qu'ils ont retranscrit par la main des apôtres ou par les apôtres, bon, on voit qu'il n'y a rien qui change quelque part. C'est toujours aujourd'hui un fait. Où nous en sommes avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir avec Christ? Et les preuves peuvent nous aider à ça. À savoir où on en est. La troisième et dernière facette que j'ai voulu parler dans l'épreuve, c'est notre sanctification. Qu'est-ce que l'épreuve va me montrer sur ma sanctification? Et quand je parle de sanctification, je ne parle pas de sanctification extérieure. Ce que je peux donner à paraître. Je suis bien habillé, je me porte bien, la rigueur bien coiffée, j'ai une bonne tenue. Ça, c'est bien. Hein, je dis pas qu'il faut venir habiller n'importe comment, attention, hein, c'est pas mes mots. Mais ça ne montre pas l'intérieur. Jésus a dit, nettoyez d'abord l'intérieur. Et le reste nous paraîtra pur. Moi, je vois qu'en moi, il y a encore des choses, il y a des moments où il faut nettoyer. Dans Éphésiens 4, verset 1, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est des choses qui se trouvent où, ça? C'est pas des choses qu'on voit forcément à l'extérieur. Du moins, pas au premier abord. Mais c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Quand nous traversons une épreuve, c'est une chose que je peux comprendre, moi. Je peux comprendre la colère. Je peux comprendre. À la rigueur, je dirais, si je dois me mettre en colère, il faut mieux que je me mette en colère contre mon péché. Et quand je parle de péché, je parle du mien, je parle pas du vôtre. Je dois me mettre en colère contre mon péché, c'est pas normal. Je dirais que c'est une bonne colère, celle-là. Par contre, si le fait de tout ce qui se passe en ce moment, comme le coronavirus, et ce que je peux constater, parce que j'observe, je suis quelqu'un qui regarde, et mon épouse, c'est pareil, il y a quelqu'un qui regarde, on a fait des constats, non pas vis-à-vis des frères et sœurs en Christ, mais surtout vis-à-vis des gens du monde, on a fait des constats qu'il y a beaucoup de gens qui réagissaient d'une certaine façon au premier confinement et qui réagissent d'une autre façon au deuxième confinement. Mais nous, comment nous réagissons? Est-ce que nous sommes contents? Non, faut qu'on... Comme je dis, il faut une certaine réalité. Non, pas forcément. Regardez, on est obligé d'être sur Internet pour se rencontrer, pour avoir un message. Et pourtant, on le fait. Et on s'en réjouit. On s'en réjouit de pouvoir se voir. On s'en réjouit de pouvoir communiquer ensemble. On s'en réjouit, même si ce n'est pas par Internet, ce sera par téléphone, mais on peut s'en réjouir. On n'est pas encore limité. On n'est pas encore limité pour louer Dieu. Pourtant, toutes les épreuves peuvent créer en nous... On peut créer, ou je devrais dire, va relever, va faire montrer encore ce qui est en nous de mauvais, ce qui est en nous de pas normal. L'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, les calomnies. Et ça, Paul dit non, ça ne devrait pas être. Non. Non. Excusez-moi, je prends une note. Donc, ce qui ne se voit pas, ce qui est à l'intérieur, l'épreuve, et il ne faut pas de grande épreuve, vous savez, pour ça. Il suffit d'être honnête avec soi-même et de s'examiner dans le moment où on voit les choses qui ne vont pas comme nous, on le voudrait. Ou dans les moments où il y a une épreuve qui arrive, faut pas forcément qu'elle soit grande. Hein. Faut pas forcément qu'elle soit... Mais qu'elle nous touche à l'intérieur. Et voir ce que il va en sortir. Et c'est ce qui en sort, c'est d'amertume, l'animosité, de la colère, de la frustration. On peut dire encore du travail, Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes, des disciples qui sont censés être aller à contre-courant. Dans ces derniers temps, personnellement pour moi, j'admets et j'avoue devant vous tous que j'ai eu une forme de colère, de frustration d'âme. J'étais pas content quand j'ai vu qu'il y avait un instituteur qui avait été décapité, comme ça. Quand j'ai vu que des gens d'une autre confession que la nôtre, mais qui confessaient Christ, avaient été tués. Je vous assure que ça m'a... J'ai eu un moment d'amertume, de colère envers une autre religion, je vous le cache pas. Et je me suis dit, mais André, c'est normal ta réaction. Jésus nous a demandé de bénir. Nous a demandé de réagir autrement. Quand il a repris Jean et Jacques en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé ?» Je me souviens, et Thierry confirmera, parce que ça vient de lui, et je m'en suis souvenu quand il a dit comme ça, on prie souvent pour les personnes, comme par exemple nos frères et nos sœurs d'autres dénominations qui ont souffert à cause d'une religion qui tue sans réfléchir. Est-ce qu'on prie pour les personnes qui tuent? Est-ce qu'on prie pour la personne qui est venue persécuter? Pour la personne qui est venue tuer? Est-ce qu'on prie pour les gens qui ont été derrière l'instigateur de cela? Je sais, si on m'entendrait aujourd'hui, on me dirait, mais t'es fou! Jésus a prié pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. je voudrais dire, est loin de me comparer à Jésus, hein. Et loin d'être humble, parce que je ne vous cache pas que je suis qu'un homme, pécheur, sauvé par grâce. Seigneur, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le royaume des cieux est un royaume de paix. Et je ne pense pas que les gens violents, dans cette forme de violence, vont y rentrer. L'amertume aussi de tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons aller en contre-courant d'une société qui, elle, va s'endurcir. Et que nous, on va prier pour nos ennemis, on va prier pour ceux qui nous persécutent. Ça aussi, c'est une épreuve. C'est une forme d'épreuve. Mais c'est ce que Christ nous demande. Il ne nous demande pas d'accepter le crime, bon entendeur. Hein, il ne nous demande pas d'accepter le péché, ce n'est pas ça. Il nous demande de réagir autrement, avec une autre pensée. Car l'âme, il est venu pour sauver, comme il a dit. Je suis venu pour sauver, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour extirper. Et combien de personnes d'autres confessions ont été libérées, ont été libres parce que des chrétiens se sont tenus à la brèche et ont prié pour eux. Je prie souvent pour la guérison, je prie souvent pour que des gens soient guéris, rétablis, pour que les finances vont mieux pour eux. Mais combien c'est merveilleux quand j'entends des personnes d'autres dénominations non chrétiennes disent « Je suis venu à Christ ». Moi, je trouve ça formidable. Je suis venu à Christ. Et là, je ne peux que louer humblement mon Dieu et mon Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui ont prié pour eux. Même si ça ne se voit pas aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont prié pour moi. Aujourd'hui, je l'affirme, il y a des gens qui ont prié pour moi. Amen. Donc l'amertume, la clameur, tout cela, je dirais aussi que quelque part, nous n'avons pas un combat spirituel à livrer. Dans Éphésiens, je pense que c'était 6 de mémoire, où Paul nous parle d'un combat spirituel, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais quand tout cela arrive, quand les clameurs arrivent, quand l'animosité arrive à cause d'une épreuve, est-ce que quelque part, il n'y a pas un combat livré justement pour dire, ça, je n'en veux pas. Ça, je le refuse. Ça, je le combats. Parce que je sais d'où ça vient. Ça vient pas du Seigneur. C'est difficile. Je vous l'accorde. C'est pas évident. Je vous l'accorde. C'est un combat. J'ai le même combat que vous. Je suis comme vous. Je livre ce combat. C'est pour cela que Christ a dit, je bâtirai mon Église. Et que cette merveilleuse promesse qu'il a dite, le séjour des morts ne pouvoir pas contre elle. Et je trouve quelque part il a raison. Si nous livrons ce combat, la mort peut rien contre nous. Je parle de la mort spirituelle. Je parle pas de la mort physique, entre guillemets. Je ne sais pas qui l'a idée. Je crois que j'en ai dit suffisamment. Je voudrais finir avec cette réflexion. C'est une réflexion de Job. Parce que l'interrogation que je me posais, faut-il passer par une épreuve pour saisir et comprendre? Faut-il forcément passer par l'épreuve? Personnellement, je ne le pense pas. Il y a une condition. C'est d'être à l'écoute, d'être en communion, de laisser Dieu changer notre cœur. De ne pas attendre que l'épreuve arrive pour comprendre ou pour nous être donné à comprendre qu'il est présent, qu'il est là. Encore une fois, je dis, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve, je dis simplement qu'il y a des moments, l'épreuve, il la donne pour notre bien. Job dit, maintenant j'écouterai. Il dit à Dieu, écoute maintenant et je parlerai. C'est-à-dire que quelque part, il dit, ben, maintenant je m'adresse à toi, Seigneur. Je t'interrogerai, tu m'enseigneras. C'est ce qu'il a donné à l'Église. Il a donné des bergers, des enseignants. Il a donné des personnes de grande qualité, remplies d'esprit. Il a donné sa parole pour que nous puissions justement éviter de rentrer dans des épreuves qui seraient peut-être trop lourdes pour nous, pour que nous puissions saisir et comprendre. Et là, on peut lui dire, bah, Seigneur, bah, je t'interroge. Les apôtres interrogeaient Jésus. Pourquoi? Dis-nous, explique-nous, montre-nous. Nous pouvons aussi. Ça m'est arrivé. Là, je ne comprends pas, je ne saisis pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que on n'est pas obligé de passer par l'épreuve pour ça. Dieu peut simplement nous montrer par un enseignement. Et c'est peut-être mieux, non? Ah non, je ne dis pas qu'il n'y aura pas forcément d'épreuves. Je dis aussi qu'il y a des épreuves qui ne sont pas voulues par Dieu. Et ayons le discernement de ce que Dieu permet et de ce que Dieu ne permet pas. Quand Dieu ne permet pas, on a des droits de dire non. Que cette épreuve s'écarte de moi. Seigneur, si c'est toi, montre-moi ce que je dois voir, ce que je dois comprendre. Parce que je sais que ce moment est limité et je vais en sortir plus grand. Amen. On va prier. C'est cette confiance en toi, Seigneur, que nous voulons renouveler, Seigneur, dans ces moments de difficulté que nous pouvons traverser en ce moment. Que ce soit, Seigneur, par rapport à cette maladie, comme ce soit, Seigneur, à ce que nous pouvons voir, ta parole nous invite à préserver notre cœur, à regarder à toi, à garder cette grâce et cette confiance dans la connaissance que tu nous as donnée de toi. Que cette connaissance que nous voulons saisir par la foi puisse nous donner les fruits à rester en toi, à rester vigilant, à pouvoir nous examiner intérieurement et à voir ce qu'il y a encore en nous, Seigneur, qui n'est pas de toi. Nous puissions petit à petit nous remplir de toi, comme tu le désires. Ce que tu vides, Seigneur, de notre vie, ça soit rempli par toi, tout simplement. Ainsi que nous puissions être ces lampes et ces lumières, Seigneur, que tu désires pour chacun de tes enfants. Pour que dans ces derniers temps, Seigneur, ton Église puisse être la lumière du monde. Comme pendant tous les siècles, que ta volonté soit faite.